I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman.
Le Saint-Loi Promptu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce salon impromptu. Prenez place et laissez-vous porter ou chavirer par la conversation. Dans cet épisode inaugural, Julien Delmer et Maxime Rossi, tous deux auteurs et amis, ont poussé la porte du studio, un jour d'été, avec leurs valises pleines de sons et de poésie. On a enregistré pour le plaisir et quelques semaines plus tard, l'idée de l'émission Le Salon Impromptu naissait, ensemencée par le souvenir de nos conversations. Voici donc le premier épisode qui commence en musique.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting round to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. But it's easier than just a waiting around to die. I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die.
On était avec Townes Van Zandt, Waiting Around to Die, pour commencer cette interview avec deux auteurs, deux amis qui viennent ici à Fréquence 7 pour parler littérature, poésie, musique et tout ce qu'ils veulent d'ailleurs. Bonjour à tous les deux, salut Julien Delmer.
Bonjour Sophie.
Julien Delmer, tu m'as dit.
Oui, ou Delmer, mais ça passe aussi. Hein.
Et salut Maxime Rossi, bonjour.
Bonjour Sophie.
Merci encore à tous les deux d'être venus. Alors vous êtes venus parce que d'abord il y a une actualité littéraire riche. Vous sortez tous les deux un bouquin là pour cette rentrée littéraire. À l'heure où nous enregistrons cette interview d'ailleurs, vos livres ne sont pas encore sinon sortis sous presse, en tout cas publiés. Donc je ne les ai pas lus encore. C'est pour ça qu'on va parler de ces deux livres, mais on va parler de bien d'autres choses parce qu'en plus vous êtes venus avec plein de cadeaux. Des cadeaux sous forme d'extraits sonores, de poèmes, de poésie. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce moment qu'on va passer ensemble. Alors Julien, puisqu'on vient d'écouter Townes Van Zandt, Waiting Around to Die, qui, je crois, a inspiré ton dernier livre, est-ce que tu peux nous parler à la fois... Enfin, parle-nous de ce que tu veux d'ailleurs.
Pour les auditrices et les auditeurs de Fréquence 7, je pense que c'est une joie déjà d'entendre Tans Vansen, parce que c'est quelqu'un, quand on l'entend, on a vraiment une sensation, je pense, d'immédiateté, comme si on l'avait toujours connu, mais en réalité, c'est quelqu'un qu'on connaît peu, comparé aux autres grands noms du folk, Cohen, Dylan ou Neil Young, je veux dire. C'est quelqu'un qui a composé à peu près à la même époque. Son premier album date des débuts des années 70, qui malheureusement n'a pas connu le même destin, c'est-à-dire que ses albums ont très peu marché. C'est quelqu'un qui avait dès le départ de gros soucis d'addiction. C'est quelqu'un qui était polytoxicomane, alcoolique, accro à la codéine, etc. Et qui avait... dès sa prime enfance, dès son adolescence en tout cas, subit ce qu'on appelle un traitement à l'insulinothérapie, quelque chose qui se pratiquait beaucoup aux États-Unis, qui est complètement interdit aujourd'hui, mais qu'on prescrivait aux adolescents, ne serait-ce que pour des accès de mélancolie. Et une des conséquences, c'est la perte de mémoire. Et Tans Vansen, à partir de l'âge de 16 ans, n'a plus aucun souvenir de sa petite enfance. Et c'est à travers ses musiques, ses paroles, qu'il essaye de la reconstituer. Et c'est vrai que ça donne des paroles extrêmement mélancoliques, c'est vraiment une sorte de poésie désespérée, désespérante, et en même temps avec cette espèce d'immédiateté de la musique country. Vous savez, on dit toujours la musique country, c'est trois accords et la vérité, et il y a vraiment de ça, c'est-à-dire raconter des fragments de vie comme ça, de personnes paumées, ballottées en 3 minutes, et nous les rendre immédiatement sympathiques, en tout cas nous faire ressentir, au-delà de leur déchéance sociale apparente, la lumière qui garde en eux. Et ça m'a effectivement, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je l'ai découvert il n'y a même pas 3 ans, mais par contre ça m'a immédiatement interpellé, même bouleversé, je dois dire, je l'ai écouté en boucle, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'il ne faut pas écouter trop souvent non plus, ça peut vous mettre vraiment dans un drôle d'état, Tans Vansen, parce que vraiment il y a des chansons à se jeter par la fenêtre, hein. C'est vraiment, d'ailleurs, le pauvre est mort très jeune, enfin vers à peine 55 ans, et dans un état, voilà, psychique et physique assez délabré.
Et tu vas bien?
Et moi, je vais bien, parce que j'ai su m'arrêter à temps. Voilà, donc écoutez Tans Vansen, oui, à dose homéopathique. Et en tout cas, non, voilà, ça a vraiment été le point de départ, effectivement, de l'écriture de ce roman, La joie de l'ennemi, qui est paru là le 27 août chez Grasset. Et qui remporte d'ailleurs un relatif succès, je m'en félicite. C'est vraiment le point de départ, c'est la première fois quasiment que je pars sans plan préconçu, avec juste une musique, des atmosphères, et peu à peu, voilà, naissent des visages, des paysages. Donc j'ai voulu effectivement créer le roman dans une sorte d'Amérique du Nord un peu fantasmatique, quelque part entre les Appalaches et le Colorado. Et puis le personnage principal du roman, Jeffrey, est inspiré directement de Tans Vansen, puisque lui aussi a subi des ondes d'insulinothérapie et lui aussi a perdu la mémoire, et à travers les drogues essaye de retrouver comme ça des fragments de présence au monde, mais tout est flou autour de lui, et sa quête d'identité se heurte à, voilà, un environnement qui est hostile et empoussiéré, comme dans un bon vieux western à l'ancienne.
Comment ça s'est passé, en fait? T'étais avec lui pour l'écriture, je veux dire, c'est un processus qui a duré assez longtemps, ou c'était très court? T'étais vraiment avec lui, c'était une relation intense?
Avec Tans Vansen?
Oui.
Écoute, ça.
Et avec Jeffrey, du coup.
Oui, non, c'est vraiment une des premières fois que j'écoute autant en boucle, de manière quasi, quasi méthodique, quoi, un artiste. Je crois que, de toute façon, voilà, à la fin, ma plateforme musicale m'a indiqué que j'avais écouté je ne sais combien de centaines d'heures de Tans Vansen. Et comme j'écris de toute façon toujours en musique, il y a même parfois où j'écoutais à peine les paroles, mais voilà, j'avais la guitare derrière de Tans Vansen qui m'accompagnait. Et non, ça a été un processus plutôt long, c'est-à-dire qu'entre les... C'est un peu l'idée, la difficulté, disons, qu'on n'a pas de plan préconçu, contrairement à mes précédents romans, c'est que on se laisse aller complètement au gré de la musique. Donc il y a des trouvailles qu'on n'aurait évidemment pas imaginées, et puis il y a des choses, on se rend compte au fur et à mesure que elles alourdissent le texte, ou qu'elles n'ont pas tout à fait leur place, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup, une longue période, on va dire, de freestyle, où vraiment j'écrivais de manière complètement émotionnelle, ce qui est aussi très agréable, hein, en tout cas quand on a le temps de le faire, et quand on a cette possibilité comme ça de s'abandonner. Et puis, il y a eu un long moment aussi de réécriture, de réagencement. C'est un roman où j'ai dû couper beaucoup de pages, c'est-à-dire que j'ai dû couper plus de 80 pages, voilà, parce que effectivement, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi parfois aller un peu à l'os, quoi, parfois recentrer, parfois concentrer les choses. Mais voilà, c'est des amputations, entre guillemets, qui sont pas si douloureuses parce que vraiment, j'avais l'idée de voilà, d'être un peu aussi dans cette comment dire, cette optique de d'épure, c'est-à-dire le voilà le la country, ces trois accords et la vérité. J'avais pas envie non plus que ce roman abandonne ce côté spontané, dépouillé aussi de la country qui contribue à son charme, enfin pour moi.
Et pour toi, Maxime, dans ton processus, tu y es allé avec un plan ou pas de plan. Donc, Maxime, c'est ton premier roman qui vient de sortir, donc qui s'appelle La Tournée aux éditions L'Iconoclaste. Tu as été libraire, tu es toujours infirmier, pompier. Mmh. Et donc, La Tournée.
Eh ben, La Tournée, c'est un peu le même processus que Julien, c'est-à-dire qu'il y a une grande part d'improvisation. Pour laisser la place à une écriture émotionnelle, je me suis complètement retrouvé dans ce qu'il a dit. C'est une sorte de road movie qui se déroule en Ardèche avec une unité de temps. Ça raconte la journée d'un infirmier libéral. La journée commence à 5h du matin, elle se termine le soir. Je connaissais le début et la fin. Et à travers cette tournée, le personnage rencontre les personnes qu'il soigne. À travers ça, c'est un paysage et un portrait de la campagne en train de s'éteindre. C'est un livre sur le lien, sur l'urgence de se parler, de dire l'amour, etc., etc. Mais je voulais qu'il y ait une grande place pour l'improvisation, pour qu'on reste dans une écriture spontanée. Et c'est aussi un texte qui est rythmé par des musiques, puisque elles sont rythmées par les morceaux que le narrateur écoute en voiture. Mmh. Et je pense que y a un vrai plaisir à être dans cette circulation émotionnelle où on n'est pas bloqué par un fil narratif, mais où on peut aller chercher en soi une vérité. Et je pense que cette vérité, elle a pour effet de éventuellement peut-être toucher le lecteur.
T'es venu avec un extrait de Céline qui parle justement de l'émotion.
Au commencement était le verbe, non, au commencement était l'émotion. Alors le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On lui fait avoir le trot. Ben, on a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulgaire, n'est-ce pas? Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, 40 volumes énormes, n'est-ce pas? Remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs. Excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas? Personne n'y vient, ce truc-là. C'est un boulot très dur, n'est-ce pas? Il consiste à prendre les phrases, je vous disais, en les sortant de l'organe. Ou si une autre image, je cherche de savoir. Si vous prenez un bâton et vous voulez le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord. Parce que la réfraction fait que si vous mettez ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas? C'est un vrai travail. C'est le vrai travail du styliste. Alors ça, c'est très difficile.
Et alors ça, c'est très difficile, nous dit Céline. Est-ce que vous êtes d'accord avec Céline qui s'est invitée ici à Fréquence 7? Julien.
Enfin, c'est compliqué, parce que bon, on dit toujours les idées, mais tout le monde en a. Non, c'est incroyable d'écouter Céline, les enregistrements. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Je suis pas non plus un homme d'idées. Je dis pas que j'ai pas de temps en temps des réflexions un peu conceptuelles, tout ça, mais c'est vrai que pour moi, le roman n'est pas forcément le domaine de l'idée. Je suis d'accord pour dire que l'émotion est première. Ça, c'est évident dans le sens où, disons que moi, j'ai tendance, quand j'aborde l'écriture, à avoir plutôt des analogies avec la musique qui me viennent spontanément, ou la peinture. Voilà, j'essaye de donner une teinte orangée à un passage. J'essaye de lui donner une rythmique particulière. Voilà, je raisonne vraiment, pas en termes, en tout cas, grammaticaux, syntaxiques, etc. quand j'écris, ni en termes effectivement de voilà de d'idées ou de messages à délivrer. Et moi j'aime bien l'idée qu'effectivement l'écriture est un lien même indirect avec le corps, c'est-à-dire idéalement même que l'écriture procure des sensations qui sont de l'ordre du physique, c'est-à-dire pourquoi pas un malaise, pourquoi pas un soulagement, mais enfin quelque chose qui se ressente, un peu comme la musique peut nous emmener très loin. Et je sais que la musique a cette force et que c'est extrêmement difficile pour la littérature de se hisser à ce niveau-là de ressenti, de sensations procurées, mais j'aime bien qu'en tout cas dans certains moments du livre, oui, il y a ce rapport organique avec l'écriture. Moi, je trouve ça fabuleux quand on arrive à l'atteindre, oui.
Là, quand tu parles de l'écriture, c'est-à-dire pas en tant qu'écrivain auteur, mais en tant que lecteur recevant cette écriture.
Les deux, c'est-à-dire effectivement chez les maîtres et maîtresses de littérature que j'admire, ben c'est ça que j'admire finalement. C'est-à-dire ouais, effectivement, je sais pas moi, surtout chez les poètes, parce que je pense que la poésie a un lien très beaucoup plus direct avec la musique, peut-être encore que la prose. Effectivement, moi ce que j'attends d'un poète, c'est qu'il me procure des sensations fortes en réalité, avant même que ces sensations débouchent sur des prises de conscience. Et alors quand on arrive aux deux, par exemple, je pense à celui qui reste quand même ma boussole après toutes ces années, Aimé Césaire, c'est d'abord une déflagration poétique, des couleurs, des sensations, quasiment une ivresse. Et après, ça n'empêche pas que sédimente une prise de conscience et que Césaire soit un auteur éminemment politique, éminemment engagé, un auteur qui même est un jalon dans l'histoire, hein, une sorte de repère. Mais d'abord, c'est un volcan en éruption, et c'est ça qui fait que la poésie de Césaire, je pense, nous accroche toujours, c'est qu'elle brûle.
Maxime ?
On parlait de l'émotion, et on a tous lu des livres comme ça qui nous ont mis une claque, et qui nous ont impactés au plus profond de notre être, dans les tripes. Et autant Céline était un être absolument abject, quiconque l'a fréquenté longtemps a l'impression d'être en compagnie du vieil oncle raciste, antisémite et barbant. Autant il a des sommets littéraires qui sont incroyables. Et moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps dérangé par rapport à l'écriture, c'est ce rapport à la vérité de l'émotion. C'est-à-dire que quand on raconte des histoires, on raconte un peu du pipeau. Et j'avais l'impression que écrire, c'était d'une certaine manière mentir, qu'on perdait cette vérité, cette authenticité. Et du coup, perso, j'ai réussi à écrire quand j'ai trouvé cette espèce de manière d'aller et venir avec soi, qui fait qu'on a l'impression de raconter quelque chose de vraiment vrai. Qui s'imprègne d'émotions profondes, on va à la source. Céline le dit bien, le nerf, c'est l'émotion, etc. Et les textes, je pense que Julien et moi, on a un point commun, c'est que les textes qui nous ont le plus touchés sont des textes qui mettent en jeu l'émotion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, ChatGPT confirme les propos de Céline. Céline disait que Il y avait le discours, le discours de l'avocat, de l'homme politique, le discours, et que ce discours-là, il avait sa place dans les journaux, etc. Mais que la littérature, c'était autre chose. Et aujourd'hui, ChatGPT peut écrire les discours des hommes politiques, peut écrire des manuels de bien-être vendus sur Internet ou des choses comme ça. Mais c'est difficile d'aller, euh, d'aller à l'émotion quand même.
Pour rebondir sur ChatGPT et les écrivains, je ne sais pas si vous avez fait le test. Moi, je l'ai fait, évidemment, dès que la, une version suffisamment développée est parue. J'ai demandé à ChatGPT d'essayer d'imiter les auteurs que j'aimais. Et alors, c'est très intéressant. Par exemple, bon, alors déjà, ça permet un grand coup de modestie. Par exemple, moi, il ne me connaît pas dans le sens où il n'a pas été entraîné avec mes livres. Donc, il est incapable, en fait, de reproduire ce que je fais. Il est capable de citer ce qu'il connaît de Google, ce que dit Google de moi. Mais je veux dire, il a pas lu mes livres, donc il est incapable de... Et après, ce qui est intéressant, c'est quand il y a des auteurs qu'il a plus ou moins assimilés. Mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, Céline, notamment, parce que je lui ai demandé d'écrire des passages céliniens, il en est incapable. Mais quand Céline parle de style, c'est vraiment un artisanat. C'est-à-dire qu'il est là, il écoute la phrase avec une oreille extrêmement précise. On le voit dans sa maison à Meudon avec ses manuscrits, ses feuilles manuscrits qu'il accroche avec des pinces à linge sur un fil, et il revient dessus et il le dit, pour 800 pages que j'ai écrit, j'en garde que 200 ou 300 et je reviens, etc. Chaque phrase doit résonner, doit avoir une sorte de roulement en bouche, etc. Et ça, effectivement, pour l'instant, l'intelligence artificielle en est loin. Et ce qui est rigolo, c'est que elle a aussi une barrière morale, l'intelligence artificielle. Par exemple, en tout cas à l'époque, il y a déjà un an, elle refusait d'écrire un texte à la manière du Marquis de Sade, par exemple. Il y avait un message du genre « Je ne suis pas habilité à... » etc. Alors je dis « Bon, on va la pousser dans ses retranchements. » Et je lui ai dit « Écoute, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire dans le style de Jean Genet entre deux marins qui s'aiment au bord de l'eau sur les quais de Brest ?» Et là, il m'a fait une version, bibliothèque rose de Querelle de Brest. C'est-à-dire qu'il est très, très, très gêné par la sexualité et particulièrement l'homosexualité. Donc, en fait, c'était complètement cucu la praline, ce qu'il m'a écrit. Et donc, en fait, on se rend compte que, bah oui, il y a encore quand même de la marge pour que l'intelligence artificielle arrive à l'audace et au travail du style là-dessus. Moi, au début, j'étais effaré, puis là, je suis relativement confiant. Je me dis quand même qu'on a encore, 10 ou 20 ans pour écrire nos livres bio, quoi.
Mais c'est un outil très, très scolaire, hein, ChatGPT. Après, pour en revenir à Céline, c'est vrai qu'il a tous ses manuscrits, etc., mais je pense qu'il nourrit un peu sa légende d'énorme travailleur qui se présente chez Grasset avec le manuscrit du voyage dans une brouette qui déborde de feuilles. Et il est toujours avec ce propos, dire oui, mais les jeunes, ils veulent pas travailler. Et nanan.
Le tonton à l'heure. Hein.
Le tonton barbant au possible. Et après, ce que je voulais dire sur ChatGPT, tu vois, par exemple, il y a effectivement une dimension très artisanale dans l'écriture dont on se rend pas compte, notamment dans la réécriture avec l'éditeur. C'est-à-dire que c'est comme un objet, c'est comme un meuble. On présente un meuble à l'éditeur, il dit il est pas mal, mais voilà, on va rajouter des tiroirs, on va raboter ça, ici tu vas faire des festons, là il faut laquer cette surface-là, etc., etc. On retourne à l'atelier, on travaille, on ressort avec de la sciure sur les chaussures, on lui présente l'objet, il dit bon, ça c'est pas mal, mais là tu vas m'ajouter ça, là tu me retranches ci, etc., etc. Et ça dure comme ça, effectivement, pendant des mois. Et il y avait au début du livre, il y avait une phrase que l'éditeur me demandait de reprendre parce que il trouvait qu'il y avait des répétitions. Alors les éditeurs, je savais pas qu'ils étaient aussi scolaires. Ils détestent les répétitions de mots. Et du coup, c'était dans un passage que j'avais énormément travaillé, donc je me sentais pas trop de revenir dessus. Et à la fin, un peu par désespoir, je me suis dit, tiens, je vais proposer à ChatGPT de reprendre cette phrase. Donc, je lui ai donné la phrase dans le contexte et je lui ai demandé de me donner des équivalents. Et il m'a donné des équivalents, mais c'était vraiment d'une pauvreté et c'était scolaire que ça n'en pouvait plus. Et du coup, ça m'a assez plu parce que je me suis dit, finalement, ça va. Finalement, avec nos phrases un peu de guingois, un peu imparfaites, on n'est pas trop mal. Et du coup, je me suis dit, on va laisser les répétitions, c'est très bien comme ça.
Je voulais revenir sur le style parce que tous les deux, vous m'avez dit au début de l'émission que vous aviez commencé justement plus sur l'improvisation. et dans ce laisser aller qui, alors toi Julien, tu as, enfin tu es poète aussi, tu écris la poésie, tu en lis, tu en slames aussi beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui infuse en toi, qui est en toi. Maxime, ça, pour toi je ne sais pas, pourquoi cette forme de roman? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous vouliez raconter une histoire? Pourquoi un roman plutôt que de la poésie, Julien?
Eh ben,
ou une autre forme?
Non, mais c'est toujours une question qu'on se pose, mais qu'en fait, on ne doit pas se poser au moment où on écrit, parce qu'il ne faut pas arrêter le flux. Là, je repense à mon premier roman, Georgia, qui date déjà d'un petit moment. Il est paru en 2013 et je l'ai écrit entre 2009 et 2013, donc pendant 4 ans. Et pareil, je n'avais pas vraiment de plan. J'avais le nom du personnage, l'idée qu'il fallait faire des correspondances entre la Géorgie, la chanson de Louis Armstrong et un personnage réel. Mais j'ai écrit une trentaine de pages qui étaient de la poésie en prose. Et qui en réalité je n'ai pas gardé, j'ai quasiment rien gardé sur cette trentaine de pages, j'ai dû en garder une ou deux dans le roman, dans la version finale du roman. Et à l'époque je me suis dit que c'était effectivement peut-être un recueil que j'allais faire paraître, et puis j'ai bien fait de ne pas m'interrompre, parce que est venu un autre personnage. Et quand vient, je pense, la rencontre entre deux personnages, là naît la possibilité du roman, c'est-à-dire quand au-delà du décor, de la musique, du rythme, se commence à se tisser des liens humains, là le roman peut-être, ou le théâtre hein, ceci dit, mais ça aurait pu aussi basculer vers le théâtre, mais ça a basculé avec le roman, pas en raison de la nécessité de faire dialoguer différents êtres, différents personnages. En fait, la poésie le peut hein, je veux dire, on peut tout à fait imaginer aussi de la poésie dialoguer, etc., mais quand même très vite, voilà, il y a eu la voix solitaire de Georgia, le personnage principal, a très vite ressenti la nécessité d'un écho, puis de plusieurs, et donc c'est là où le flux de texte s'est orienté vers le roman. Mais je trouve ça extraordinaire quand, effectivement, on n'est pas forcément encore dans l'identification d'un genre, quand on est encore un peu dans le trouble dans le genre, comme dirait Judith, et comme dirait Duras aussi, parce que c'est ce que j'adore chez Duras. Par exemple, il y a certains textes de Duras, je pense à « Détruire, dit-elle » par exemple, ou « La maladie de la mort », c'est impossible, d'ailleurs, même ses éditeurs refusent de lui donner un genre sur la couverture, ce qui est rare. C'est un texte, ça mêle autant théâtre, script de cinéma, poésie, roman, confidence, interpellation à la nuit, on sait pas trop ce que c'est. Et c'est, ou même pour moi, c'est plutôt même quasiment incantation magique, et ça crée quelque chose d'unique qui n'a pas besoin d'autres sous-titres que texte, en fait.
Marguerite Duras, sur le style et le cinéma.
Au cinéma, qu'est-ce que vous allez voir?
Je vais voir Godard.
Pierrot le fou?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que c'est difficile, comment vous dire ça? Je crois qu'il a un style, enfin. On l'aime ou on l'aime pas, mais il a un style comme Bergman. Alors, le style, c'est une répétition, ça limite forcément les gens, mais enfin, un art comme cinéma en a besoin. Ça, c'est évident qu'il faut qu'il en passe par l'œuvre, la notion d'œuvre. Je ne sais pas si Godard est très intelligent. Je ne crois pas, mais il a beaucoup, beaucoup de talent. Alors, à l'heure actuelle, il est très difficile au talent de se passer complètement d'intelligence. Peut-être dans le cinéma, voyez-vous. Littérature, c'est fini. Mais dans le cinéma, c'est peut-être.
Qu'est-ce que vous voulez dire par « c'est fini » dans la littérature?
On ne peut pas avoir que du talent en littérature.
On ne peut pas avoir que du talent en littérature.
Ah ben, Marguerite. Alors, Marguerite, moi, c'est une de mes écrivaines fétiches, mais il faut voir que parfois, elle balance des choses comme ça de manière extrêmement péremptoire. Parfois, on est complètement subjugué, puis parfois, on l'interroge et on se dit « mais... tu es sûr de toi, Marguerite ?» Là, sur ce coup-là, j'ai un doute. Après, ce qui est très intéressant, c'est quand elle dit au début, le style induit forcément une répétition. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être identifié une fois effectivement qu'on a un style et qu'on le reproduit d'une manière ou d'une autre de roman en roman, il y a une impression parfois d'être un vieux bluesman qui chante toujours le même morceau ou d'un paysan qui creuse le même sillon. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, ce que je trouve fabuleux, notamment chez elle, chez Duras, c'est l'évolution de son style. C'est-à-dire que il faut imaginer qu'entre le barrage sur le Pacifique, son premier grand succès, et La maladie de la mort, c'est deux écritures complètement différentes, et elle cherche, quoi. Elle est toujours en quête, c'est ça qui vraiment me fascine, c'est-à-dire sa capacité à se renouveler, à chercher, à prendre des risques, à se planter, parce qu'il y a vraiment des romans de Duras qui sont des textes de Duras qui sont des plantades, mais qui sont des plantades fécondes dans le sens où elle a tenté quelque chose, quoi. Et c'est ça, là, d'ailleurs, dans ce roman, moi, c'est mon cinquième, et c'est une tentative aussi d'évoluer un petit peu, en restant fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire, bon, je pense être quelqu'un qui vient quand même de la poésie, donc fidèle quand même au rythme, aux sonorités, aux couleurs, etc. Mais essayer quand même d'évoluer, parce que je sentais qu'à un moment, je pouvais pas réécrire les mêmes textes, parce que j'en ai plus non plus les capacités. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, réécrire Delta Blues, je serais pas capable. Si je veux continuer à écrire, il faut que j'évolue. Et donc, voilà, c'est cette question de style aussi qui peut parfois être... qui peut vous enfermer, en réalité, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon Maxime ?
Eh ben, je trouve que cette interview, elle est quand même très marquée années 70, tu vois. Et les phrases genre « la littérature, c'est fini », « la littérature, c'est fini ». Tu vois, c'est vraiment,
c'était presque le cinéma aussi, hein. Je sais pas si on l'a dit, ouais. Le cinéma, la littérature, tout ça, c'est fini.
Ouais, c'est vraiment très Duras. Après, pour revenir sur la première question sur le poème et la littérature, ouais. Je pense que la frontière, elle est ténue, et qu'il y a notamment un truc, c'est que quand t'écris un roman, tu laisses un moment ton personnage s'installer, et c'est lui qui prend la parole. Donc il a besoin de place, et puis lui il déroule un peu comme il veut, si tu veux. C'est toi qui écris, mais il faut le laisser, il fait aussi un peu à sa guise, et puis ensuite à l'intérieur d'un roman, t'as des ruptures de style. Donc moi je rejoins tout à fait Julien dans le sens où c'est un peu comme écrire un album de musique, si tu veux. C'est-à-dire que des fois je me disais, le chapitre, il faut que ce soit le temps d'une chanson, 2 minutes 30 à la lecture, tu vois. Et après je change de style, je crée des ruptures comme ça. Donc je pense que la frontière, elle est assez ténue. Et je sais pas ce qu'il en est de Julien, on est tous les deux des gros lecteurs de poésie. Comme Julien, je lis beaucoup plus de poésie que de roman. Et je trouve que le roman, le roman classique, je vais pas émettre d'opinion, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me happe facilement, alors que la poésie, si. Mais autant il y a des textes très longs qui nous ont percutés, par exemple. Hein. On parlait tout à l'heure de Mort à crédit, de Céline, c'est des romans de 900 pages, c'est des romans énormes. Autant, c'est vrai qu'en tant que lecteur, j'ai tendance à préférer les formes très courtes. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime autant Christian Bobin et d'autres auteurs comme Éric Deluca, des auteurs comme ça. Et je trouve que finalement on est presque un peu limité par la taille du roman, c'est-à-dire qu'un roman, il faut que ça fasse 200 grammes minimum, il faut que ça fasse minimum ses 100 pages, sinon c'est pas un roman, on sait pas trop ce que c'est. Alors il faut 320 grammes, ça va, 320 grammes, 4 heures de lecture, ça va, on est dans le roman. Mais finalement, il y a des petits textes comme les textes de Duras là, qui sont extraordinaires, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir écrire dans ces formats-là.
Alors on rappelle, vous êtes tous les deux avec nous à Fréquence 7, Julien Delmer avec La joie de l'ennemi, mais tu viens parce que tu as sorti ce bouquin au mois d'août, mais pas que pour ça, pour parler littérature, et Maxime Rossi pour ton livre La tournée, qui paraît ou qui a paru chez l'Iconoclaste le 9 octobre Tu parlais, Maxime, de Bobin, de Christian Bobin. Eh ben, tu nous as fléché un petit extrait qu'on écoute. On écoute Christian Bobin tout de suite.
Le soupçon, quand on emploie ce mot, c'est toujours pour désigner une chose qui ne va pas, une chose qui n'est pas belle et qu'on va amener sur la table et pour qu'on la lapide. Mais pourquoi ne soupçonnerait-on pas une bonté dans le monde ? Curieusement, dans ce monde même qui nous accable, une bonté qui est ici ou là, à nous de la trouver et de la formuler en la protégeant, que la formule qu'on lui donne la protège, parce qu'il faut qu'elle se protège.
Ah oui, la bonté, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais je trouve que c'est assez plaisant d'écrire. Écrire, c'est un acte de don, c'est un acte d'amour, hein, c'est un acte qui vient de soi vers l'autre. Et donc, il me semble un peu spontané que ça exalte plutôt la bonté que la noirceur, puisque la noirceur, on en est enseveli. Il y a des écrivains qui nous ont marqués, tous adolescents, par exemple, comme Bukowski, etc. Hubert Selby Jr., des textes d'une noirceur insondable. Et c'est vrai que aujourd'hui, en plus, avec l'activité professionnelle d'infirmier et de pompier, d'infirmier-pompier, etc., c'est vrai que il y a des choses qui me paraissaient extraordinaires quand j'avais 18 ans, et aujourd'hui le level a un peu augmenté quand même pour...
Ça, c'est une question, ouais, j'allais dire un peu essentielle, quasi morale, mais c'est intéressant aussi parce que je pense qu'effectivement la littérature a un rapport d'une part avec le sacré, d'autre part avec l'éthique, avec la morale, effectivement. Alors, est-ce que... Je sais que c'est un cliché de dire qu'on n'écrit pas avec des bons sentiments. Je sais que, notamment, certains critiques un peu faciles ont reproché, notamment, à Bobin d'avoir trop de bons sentiments derrière son écriture. Moi, je pense que je préfère largement avoir le style, le panache et les bons sentiments de Bobin que le cynisme de la plupart de beaucoup d'auteurs contemporains. Moi, je suis d'accord pour dire que l'écriture est un acte de bonté. Après, c'est pas forcément une bonté qui va se révéler de manière évidente. Je pense que, par exemple, quand c'est chouette que tu parles de Selby, parce que je pense que Last Exit to Brooklyn, ça reste un des textes qui m'a le plus marqué. Je pense que c'est le texte, en tout cas, que j'ai le plus relu de ma vie. Je l'ai relu 4 fois. Et effectivement, c'est d'un ténébreux quasi absolu, mais il y a quand même toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une possible, peut-être pas rédemption, mais en tout cas d'un petit moment où la bonté humaine arrive à trouver une faille à travers même la vilenie du contexte et du comportement. Et ce qui est très étonnant, c'est que, par exemple, presque tous les romans de Selby commencent par une citation de la Bible. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que chez les Américains, je pense qu'on se rend mieux compte de cette dimension peut-être morale de la littérature. Il y a Steinbeck qui disait quelque chose qui peut paraître hyper manichéen, mais en fait, il a raison. Il dit que finalement, toute la littérature peut se résumer au combat entre le bien et le mal qui assaille les personnages. Et c'est, en réalité, si on regarde ce prisme-là, on se rend compte que ça s'applique à quasiment, effectivement, tout le romanesque. Mmh. Et donc, oui, bien sûr que ces questions de bien, de mal, mais en tout cas, elles sont au cœur de tout ce que j'écris. Il y a même une dimension chrétienne, claire, dans tous mes romans. Mmh. C'est-à-dire que moi,
La Bible, enfin,
La Bible, les évangiles, il y a toujours un moment où mon personnage est en prière, ou même s'il n'est pas conscient de prier, il prie quand même, et quelqu'un l'écoute, etc. Oui, moi, c'est vrai que c'est cette question d'une écriture qui soit complètement coupée d'une forme de, comment dire, j'allais dire, de transcendance, ça n'existe pas. Pour moi, effectivement, oui, le verbe, c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai tendance à prendre au sérieux. Il y a une très belle phrase de mon copain écrivain, poète haïtien, James Noël, qui dit « Moi, je suis l'homme qui me lave les mains avant d'écrire », et je trouve que c'est très beau. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pas vers l'écriture quand même comme on va aux chiottes. Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment de très... Enfin voilà, il y a une forme de noblesse, il y a une forme d'humilité aussi face à l'écriture, et donc une forme de sacré, oui.
Bah, c'est ce que vous disiez au début, en parlant des émotions même qui sont à la base. Enfin, moi, je relis tout ça parce que c'est ce qui traverse le corps, c'est ce qui nous dépasse d'une certaine manière. Et c'est ça aussi que l'écrivain transmet, c'est se laisser traverser par quelque chose de plus grand que lui.
Tout à fait. Et le lecteur aussi, parce que moi j'aimerais aussi que tu participes finalement un peu plus à cette émission, parce que t'es quand même une lectrice célèbre, enfin les gens te connaissent comme lectrice, beaucoup, comme animatrice aussi, et je sais que t'es passionnée de littérature, enfin même si t'as pas encore l'occasion d'avoir l'émission littéraire qui te convient, mais elle viendra. Mais je veux dire, voilà, toi, en tant que lectrice, je sais que tu écris aussi, comme beaucoup de grands lecteurs sont des écrivains aussi, finalement. Ce rapport-là, toi, au sacré, en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi ?
Ah ben, très, très fort. D'ailleurs, même en tant que lectrice, c'est drôle, en tant que lectrice et lectrice à voix haute, il y a une dimension, je trouve, supplémentaire de faire résonner en soi des mots, la musique, les vibrations de quelqu'un d'autre en soi et de le transmettre. C'est quelque chose, c'est une expérience vraiment... Alors, je vais pas forcément employer le terme de transcendance ou quelque chose de mystique, mais si on se dit que quelque chose de plus grand en soi nous nourrit et résonne... Et quand je dis résonne, ça veut dire qu'il y a forcément une transformation de soi en avalant ces mots, ces émotions, ces sensations. Oui, c'est une expérience absolument incroyable et nécessaire à la vie et à l'évolution aussi. Je ne sais pas si vous faites une différence, vous, dans la lecture à voix haute. Mais,
à l'oralité, oui, c'est... Est-ce que toi, par exemple, Maxime, tu es dans ce que Flaubert appelait le gueuloir. Est-ce que tu lis à voix haute ce que tu as écrit, le premier jet, ou pas ?
Moi, je parle à mesure que j'écris. Je parle à voix haute à mesure que j'écris. Et je ne sais pas si tu te souviens de... Je ne sais pas si tu l'avais rencontré, parce qu'on a beaucoup de connaissances en commun parmi les écrivains avec Julien, parce que j'ai longtemps été libraire. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et il y a... c'est un écrivain qui avait publié Mathématiques congolaises chez Actes Sud, un mec extraordinaire. Et il m'expliquait qu'en fait, lui, quand il écrivait, non seulement il parlait, mais en plus, il faisait les voix. C'est-à-dire que quand il faisait la grand-mère, il parlait comme la grand-mère, etc. Je trouvais ça génial. Et donc, c'est sûr que dans l'écriture à voix haute, il y a un partage. Et c'est pour ça que c'est jouissif d'écrire à voix haute. D'ailleurs, dans l'histoire de la lecture, Alberto Manguel, il rappelle bien que la lecture intériorisée, elle date de Saint-Augustin. Elle est aussi précieuse, mais finalement, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent ou qui relisent ensuite à voix haute ce qu'ils ont écrit. Donc il y a une continuité avec le lecteur qui va lire son texte à voix haute. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours plu chez Julien, dans son style et dans sa personnalité d'écrivain, c'est ce côté hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui a une solide culture de la littérature francophone, avec une grande érudition sur toutes les questions politiques, etc., qui tournent autour. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une culture du sacré qui est très importante. Et pour moi, ça nourrit vraiment une singularité d'écrivain et une plume très précieuse.
Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlées sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont dû commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont dû à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. Des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont pu commander à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités, leur savoir, à rivaliser avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mise au défi, il l'a prise en défaut, il l'a menacée, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer, aucune délation trop opportuniste, aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elles alors entonnent le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les maux dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à trois pieds. » Elles disent qu'elles sautent comme de jeunes chevaux au bord de leur tasse. En frappant la terre, elles accélèrent leur mouvement. Elles agitent leurs cheveux comme les bacchantes qui aiment à faire bouger leurs tirses. Elles disent « Allons !» d'une main rapide, attachée avec un bandeau vos cheveux qui flottent, et frappez la terre, frappez-la comme une biche. Marquez en même temps le rythme nécessaire à la danse. Célébrez la belliqueuse Minerve, la guerrière, la plus courageuse des déesses. Commencez à danser, avancez d'un pied léger, bougez-en, tenez-vous par la main, et que chacune suive le rythme de la danse. Paraissez en avant avec légèreté. Il faut que le cercle des danseuses fasse sa révolution et qu'elles portent leurs yeux de toutes parts.
Le groupe Draga qui reprend Les Guerrières de Monique Wittig. Un cadeau que tu nous as apporté, Julien.
Bah écoute, il se trouve que je suis en train de relire là cet été les Guerrières, parce que je l'avais lu il y a quelques années, mais je l'avais mal lu, je l'avais survolé finalement, et je me rends compte que en fait c'est un texte assez incroyable, c'est-à-dire à la fois une langue qui peut paraître archaïque et hyper moderne, et c'est un texte vraiment qui me fascine. Il y a des liens hein, c'est sûr, avec la Bible, il y a des liens aussi avec l'Iliade, l'Odyssée, il y a vraiment un côté forgé dans la nuit des temps dans ce texte, et en même temps quelque chose qui résonne effectivement avec les luttes féministes lesbiennes des années 70. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce texte, c'est comment Wittig, par exemple, il y a 20 ans je pense qu'elle était vraiment oubliée, et comment finalement parfois on se réempare comme ça, les jeunes générations. Là, je vois autour de moi des kids, quoi, des filles, principalement des filles, ouais, qui ont 20, 25 ans, et qui brandissent Wittig comme on brandissait presque le Livre Rouge, quoi. Et je trouve ça assez extraordinaire, parce que formellement, elle est incroyable, et en même temps, politiquement, elle est inspirante. Donc c'est... Voilà, moi je sais que le roman que je suis en train d'écrire, parce qu'on est toujours plus ou moins en train d'écrire un roman, voilà, où je veux essayer d'atteindre une langue justement un peu archaïque. Et voilà, je me suis dit que c'était hyper important de relire Les Guerrières. Puis j'adore la théorie aussi de Wittig sur la littérature comme un cheval de Troie, c'est-à-dire comment tu rentres à l'intérieur finalement d'un champ de conscience sociale et politique à travers un objet qui se présente de manière finalement assez inoffensive, mais comment tu infuses à l'intérieur comme ça de la société à travers une sorte de subversion discrète. Et c'est vraiment le cas de l'écriture de Wittig, quoi. Donc ouais, une grande dame, et c'est vrai que voilà, c'est aussi peut-être quelque chose qui va nous permettre de rebondir, c'est qu'il y a des lectures qui sont des lectures de pur plaisir, ça m'arrive encore heureusement, et puis il y a des lectures qui sont quand même des lectures, comment dire, intéressées, dans le sens où moi par exemple, ça m'arrive même de relire des extraits de certains textes parce que je veux aboutir à quelque chose sur certains paragraphes de mes romans. Par exemple, très souvent, moi je m'échauffais un peu comme on s'échauffe en faisant du sport, par exemple en me relisant les 20 premières pages du Polygone étoilé, par exemple, de Kateb Yassine, parce que c'est une prose qui est extrêmement baroque, extrêmement fluide à la fois. Et là, par exemple, effectivement, Les Guerrières de Wittig, c'est parce que je veux atteindre un certain ton, et parfois c'est intéressant d'entendre, non pas pour copier, mais pour entendre des choses qui se rapprochent de ce qu'on veut atteindre. Et ça, c'est aussi une autre... je suis très très content pour ça, d'avoir aussi pouvoir allier la pratique et le plaisir de lire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des lectures utiles, très concrètement, pour alimenter l'écriture. Je sais pas si ça te fait ça aussi, Maxime.
Bah oui, parce que totalement, parce que finalement, c'est un peu du bricolage, tu vois. Quand on parlait de la dimension artisanale de l'écriture, c'est ça. Donc, tu vas vers des objets similaires et sans copier, en fait, tu t'inspires de leur technique, de choses qu'ils ont faites. Moi, par exemple, je sais pas, mais quand je lis Simenon, par exemple, qui est un auteur très populaire, mais que j'aime beaucoup, et je suis un fan absolu des Maigret, c'est vrai que je vais lire, par exemple, il a une utilisation de l'imparfait qu'il utilise comme temps de l'action. Et du coup, ça donne à l'action une sorte de pesanteur particulière. Un ralenti comme ça, qui va très bien avec, par exemple, la représentation télévisuelle du Maigret de Bruno Kremer dans ses teintes bleutées, etc. Ou quand tu lis, par exemple, Toni Morrison, le début de L'œil le plus bleu, qui est un de mes romans préférés, elle prend une même séquence de phrases toute simple, voici le chien, voici la maison, le chien aboie, etc., etc. Et ensuite, elle supprime peu à peu la ponctuation et elle les accélère. Il y a un passage dans le roman où je me suis directement inspiré de cette technique. Je voulais que l'écriture ait un effet un peu stromboscopique parce que c'est un passage onirique. Eh bien, j'ai dû guerroyer avec mon éditeur pour lui dire « Non, on ne met pas de virgule, s'il vous plaît ».
Alors ça, c'est rigolo, ces histoires de virgule et d'éditeur, parce que ça peut aller loin. Moi, c'était sur le titre de mon troisième roman, Minuit Montmartre. Moi, j'ai fait Minuit, virgule Montmartre. Pour moi, c'était une évidence. C'est la virgule du Racienne, Hiroshima, mon amour, détruire, virgule, dit-elle. Enfin, et elle n'était pas d'accord. Elle dit, mais non, il n'y en a pas besoin. Et on sait vraiment, j'étais prêt à renoncer. Je me rappelle, c'était très bête, mais j'étais prêt à renoncer à ce titre si on supprimait la virgule, quoi. Pour moi, elle était essentielle. Et c'est hyper chouette que tu parles de Toni Morrison. Parce que, d'abord, c'est avec Jean Genet, mon écrivaine préférée de tous les temps. Donc, déjà, là, on est bien. Et L'œil le plus bleu, c'est quand même fabuleux de commencer. Bon, elle a commencé à écrire tard. Hein. Elle a commencé à écrire vers 35. 36, 37 ans, mais elle avait été d'abord éditrice longtemps, notamment pas n'importe qui, de gens comme Baldwin, donc effectivement, elle avait... Et on a l'impression qu'elle arrive avec toute la maturité déjà d'une grande écrivaine dès le premier roman. Et le reste qui suit, moi j'ai lu tout ce qu'elle a écrit, et le reste qui suit est à l'avenant avec des sommets, effectivement, chacun ses préférés. Moi c'est le chant de Salomon, par exemple, que je considère comme un sommet, même si Beloved est formidable. Mais ce qui est incroyable avec Toni Morrison, c'est que en fait elle m'a donné le goût de me perdre dans un texte. C'est-à-dire qu'avec elle, non seulement j'ai pas envie qu'on me prenne par la main, mais j'attends le moment où elle va me lâcher en plein milieu de la forêt obscure et qu'elle va me laisser comme ça quelques petites lucioles juste quand même pour avancer. Et c'est vrai que c'est d'une exigence et en même temps d'un plaisir pour moi, en tout cas en tant que lecteur, et je pense qu'on est des millions à travers le monde à l'admirer, donc je pense que... Et là, parfois, les éditeurs ont du mal, parce qu'on va pas casser du sucre sur le dos des éditeurs, mais ils ont parfois du mal parce qu'ils fantasment, en fait, un lectorat qui n'existe pas. Or, je sais qu'il y a un électorat, on est trois exemples autour de la table, qui aimons de temps en temps qu'on nous perde au milieu des bois un peu obscurs d'une certaine littérature qui ne souligne rien, qui est plutôt dans la suggestion, dans l'analogie, dans le symbolisme. Et ça, je trouve que c'est quand même dommage qu'on présuppose que le lecteur a besoin, qu'on lui balise forcément le chemin narratif. Et pour moi, Toni Morrison, c'est tout le contraire, et c'est extraordinaire.
Il y a deux types de littérature. Il y a une littérature plutôt visuelle et une littérature plutôt... Enfin, je ne sais pas s'il y a deux types de littérature, c'est peut-être un peu...
Tu fais ta duresse.
Ouais, non, c'est peut-être un peu imparfait de dire ça.
Tout ça, c'est fini la littérature.
De toute façon, la littérature, c'est fini. Reste... Non. Il y a une littérature, disons, qui est plutôt visuelle. Ce que je voulais dire, c'est la littérature qui convoque des images. C'est-à-dire, je te dis, l'homme entra dans la pièce, il portait un pardessus élimé et posa sa cigarette sur la table à côté du téléphone. Enfin, s'il la pose sur la table, ça va poser un problème.
C'est
le
beau.
Pompier en sait quelque chose. Et ça fait plutôt appel à des images. Et pour moi, ça, c'est peut-être une littérature qui est peut-être un peu datée, tu vois, qui est héritière directement de la littérature balzacienne, de la littérature du 19e, où en fait,
ça remplaçait le cinéma, un peu comme, si tu veux, jadis, au temps où les cathédrales étaient peintes, et ben les gens, ils allaient, quand ils allaient à la cathédrale d'Albi, je veux dire, ils regardaient le Seigneur des Anneaux, tu vois, en écoutant le prêtre convoquer les foudres de l'enfer, etc., etc., tu vois. Et je pense que cette dimension-là de la littérature, elle est moins présente maintenant, parce qu'on est beaucoup plus dans les images. Et finalement, ces espèces de formes un peu évanescentes, ces bulles bleues là qui naissent et qui se promènent dans l'espace, et ces bulles émotionnelles touchent beaucoup le lecteur.
Le deuxième type de littérature pour toi serait littérature émotionnelle, de ces bulles. Petites loupiottes dans une forêt sombre.
En fait, je ne sais pas combien il y a de types de littérature et tout, puis c'est vrai que c'est un peu bête, alors que tu n'as écrit qu'un roman, de faire des généralités sur la littérature.
Mais tu en as lu beaucoup.
Mais je suis un ancien libraire, ouais.
Ouais.
Et oui, il y a un truc que je voulais dire aussi, Julien, c'est que quand tu parles de Monique Wittig et des auteurs comme ça, il faut quand même remercier aussi les libraires, parce que ce sont eux aujourd'hui qui consacrent en permanence une partie de leur librairie à ces thématiques. Et les livres, ils sont pas connus des jeunes, des kids, comme tu dis, si on les met pas sur les tables. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle librairie, il y a des tables avec Wittig, avec Butler, avec beaucoup d'auteurs qui étaient totalement invisibilisés, il y a quelques années. C'est comme quand tu parles de Baldwin. Baldwin, c'était un auteur qui était parfaitement inconnu et dont les livres étaient totalement absents des librairies. Quand moi, j'ai commencé à travailler en librairie au début des années 2000, les libraires sont très importants comme vecteurs de mots et comme passeurs.
Et c'est le moment de promotion du territoire. À Aubenas, il y a la Bibli Les Lins Lunes, qui a plus de 600 bouquins autour des questions anticoloniales, de féministes, etc. Et tous ces auteurs-là, elles font un super travail de manière bénévole. Et il y a un fonds extraordinaire à la Bibli Les Lins Lunes. Vous êtes venu aussi quand même pour faire résonner des poèmes. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Bah écoute, moi, si Maxime veut bien, je vais commencer par un poème d'un auteur qui nous est très cher, tous les deux. C'est Franck Etienne. Alors, Franck Etienne qui nous a quittés cette année, grand maître de la parole, de la poésie haïtienne, une sorte de monstre sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui, à lui tout seul, a inventé un mouvement qui s'appelle le spiralisme, qui mêle écriture, dessin, photographie, une sorte de langue à la fois cosmique, délirante, une sorte de langue de Big Bang des origines, et en même temps voilà un auteur aussi qui a révolutionné la littérature créole, parce que c'est le premier à avoir écrit un roman et du théâtre en langue créole haïtienne. Voilà quelqu'un qui était à la fois mégalomane et extrêmement accessible à la fois. C'est quand même quelque chose de très rare, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui je pense, en se réveillant parfois, se prenait pour Dieu, et en même temps qui était capable de passer une demi-heure avec le jeune fan transi que j'étais à l'époque pour prendre le temps de lui parler. Un très grand peintre, moi j'ai eu la chance de le rencontrer en Haïti chez lui, et sa maison était complètement recouverte de peinture. Quelqu'un qui avait aussi une belle approche picturale, quoi, de la peinture. Et quelqu'un, en fait, pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui nous rapproche, Maxime et moi, c'est que à Lille, à l'époque où on habitait tous les deux à Lille, on s'était battu un petit peu pour le faire venir, et Maxime m'avait donné la possibilité, et je le remercie encore 12 ans après, d'interviewer Franck Etienne. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était à la fois la meilleure et la pire interview de ma vie, parce que moi j'adore interviewer les gens, mais en fait Franck Etienne n'a absolument pas besoin d'intervieweur, c'est-à-dire on était deux, il y avait la salle là, il remplit. Et je dis bonjour Franck Etienne, je fais une très 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 brève introduction biographique, je lui pose une question, et là Franck commence à dérouler en disant « Écoute Julien, je vais répondre à ta question bien sûr, mais d'abord j'aimerais dire que… » etc. 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 Ça dure un quart d'heure, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une facilité à improviser qui était absolument incroyable, puis il s'arrête en plein milieu et dit « Je n'ai pas oublié ta question, Julien. J'y reviens. Mais d'abord, j'aimerais dire que… » Et ça enchaîne, et ça enchaîne. Puis bon, à la fin, il fait une heure, il dit… Ah Julien, j'aurais aimé répondre à ta question, mais vraiment, écoute, c'était une magnifique interview. Et donc là, j'étais là, super, merci Franck. Moi, j'avais passé 3 jours à relire, à essayer de préparer des questions et tout ça. Mais voilà, ça reste un des très très grands souvenirs et ça reste vraiment ouais un auteur qui a été essentiel pour moi. Après. Petit regret quand même, c'est que ben c'est pas évident de trouver des œuvres de Franck Etienne en librairie. Maxime, je me rappelle à l'époque, à la grande époque du café français, notamment à Aubenas, quand c'était un café librairie et que Maxime tenait, il avait fait venir, je ne sais pas par quel chemin de contrebande, les livres auto-édités de Franck Etienne directement d'Haïti. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est là, je pense qu'il y a un vrai travail effectivement à la fois éditorial. Il faudrait qu'une maison s'empare vraiment, voilà, des livres de Franck Etienne pour les rendre plus accessibles et puis que les libraires le mettent en avant. Mais c'est un auteur fondamental, je pense que c'est notre James Joyce, quoi. Tout simplement, c'est pour moi, c'est ça, c'est vraiment un auteur séminal, quoi. Et on va lire donc un petit texte, un poème de Franck Etienne. S'il arrive que tu tombes, apprends vite à chevaucher ta chute, que ta chute devienne cheval pour continuer le voyage. Ma ville est mon navire, ma ville est mon cheval, ma ville est mon royaume, ma ville ma proxénète, ma ville ma courtisane, ma ville ma nymphomane, ma ville ma concubine. Ma croisière me débauche, mon tatouage de douleur, mon nid de volupté, ma déliquescence femelle et ma délinquance. Mes brûlures, mes désirs, dans mon corps masochiste, plaisir et déplaisir dans ma chair endiablée. Ô ma galaxie hantée, ma langue hermaphrodite, fiel et miel dans ma bouche, amertume et douceur aux épices de mes lèvres, mon pays lupanard, insomnie, boulimie, anarchie ténébreuse aux épines de la peur. Un poignard enflammé au fond de mes entrailles, un vagin qui m'obsède, un abîme qui m'avale, un naufrage qui me berce pour mieux m'anéantir, ovale au flanc de l'eau. Je glisse parmi les ombres et j'entraîne avec moi une kyrielle de fantômes dans le silence transi de ma folie cardinale. J'avance sans plus marcher, je silhouette mon amour sous la lune irréelle d'une nuit fantastique avec un frémissement de chair bleue, un tremblement de cœur inouï de bleu, une infinie gamme de bleus imaginaires, bleu de neige, bleu de rêve, bleu de méthylène, bleu d'outre-mer, bleu de l'âme blessée, bleu de nostalgie, bleu des amours mortes, bleu des abeilles muettes, bleu d'huile de Chine, bleu profond, bleu lointain, bleu de l'au-delà, bleu d'absence, bleu d'utopie, bleu crépusculaire, bleu de ma ville irréelle. Il commence à pleuvoir tout bleu. Un flottement de poussière bleue, une aura bleue autour de moi sous un parapluie bleu, l'âme et le corps frappés de bleu. Je suis une ombre bleue avec un sexe tout bleu, nageant dans une hypothèse bleue.
Magnifique, merci. Merci Franck Etienne. Et on peut, alors ce poème-là, on peut le retrouver dans une anthologie de la poésie haïtienne qui a été réédité, c'est ce que tu me disais, Collection Point.
Absolument. Alors ça, c'est merci de me laisser, Sophie, là, cette possibilité de revenir sur cette édition. C'est aux éditions Point Poche, donc c'est je vais donner le prix, comme ça ce sera plus simple, ça coûte 12 €. C'est un, attention, il y a 600 pages. C'est anthologie de poésie haïtienne contemporaine, dirigée et présentée par James Noël, donc qui est un formidable écrivain haïtien, qui était venu d'ailleurs en résidence il y a une dizaine d'années ici en Ardèche. Et voilà, ça rassemble, c'est un magnifique, je trouve, panel de ce qui se fait dans la poésie haïtienne contemporaine, en commençant par les plus anciens. comme René de Pestre, qui a 95 ans, et les plus jeunes ont 22, 23, 24 ans. Et voilà, c'est vraiment l'occasion de constater à quel point la poésie haïtienne est vivante, vibrante. Voilà, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en poésie contemporaine francophone, c'est la poésie haïtienne. Moi, je m'incline à chaque fois que je découvre des nouveaux poètes. Je me dis, mais d'où ça vient cette puissance, quoi? Et voilà, donc c'est un très, très bon moyen de s'initier à la poésie contemporaine haïtienne, ouais.
Maxime Rossi, donc tu voulais rebondir.
Oui, il y a une liberté, une force tellurique incroyable dans la poésie de Franck Etienne, c'est fou. Et tu parlais de James Noël, juste anecdote un peu perso, mais je sais pas si tu te souviens, à l'époque, moi j'accompagnais James Noël sur une rencontre à la médiathèque de Montélimar. Et il se trouve qu'il était accueilli à la médiathèque de Montpezat, pardon. Et il se trouve qu'il était accueilli à Montpezat par un personnage comme on en connaît un peu tous en Ardèche. Et pour le sustenter, il avait eu la bonne idée de préparer à James Noël un space cake. Et sauf que James n'était pas au courant que c'était un space cake. Et du coup, je l'avais accompagné dans les rues de Montpezat. Et il avait la démarche un peu hésitante, un peu tangante, et c'était très drôle. Voilà.
Ouais, bah c'était l'époque où Montpezat et Goa, même combat. Et c'est vrai que moi j'étais là aussi, et James, on en reparle encore quand on se croise, et on se voit, il me dit « Ah ouais, non mais j'étais complètement parti. » Et le pire, c'est qu'il s'en est très bien tiré, que les gens étaient ravis, mais ouais, lui était dans un état psychédélique incroyable. Et oui, non, ça faisait partie des riches heures héroïques de Montpezat. Et la personne qui nous écoute peut-être, parce qu'elle est toujours là, il sache qu'on lui pardonne, mais que voilà, ça nous fait des belles anecdotes, quoi.
Donc si vous êtes invité à Montpezat, méfiez-vous du gâteau. Demandez ce qu'il y a dedans. Moi, je vais vous lire un poème d'un auteur italien que j'adore et qui, sous la bannière duquel j'ai placé le roman La Tournée avec Christian Bobin, parce que c'est un des auteurs qui m'inspire le plus, auteur très mélancolique. L'étoile du matin. La mer est encore sombre, les étoiles vacillent quand l'homme seul se lève. Une tiédeur d'haleine s'élève de la rive où la mer a son lit et apaise le souffle. C'est l'heure maintenant où rien ne peut arriver. La pipe elle-même pente entre les dents, éteinte. L'eau murmure tranquille, nocturne. L'homme seul a déjà allumé un grand feu de branchage et regarde le sol qui rougeoie. Bientôt la mer sera elle aussi comme le feu, flamboyante. Il n'est chose plus amère que l'aube d'un jour où rien n'arrivera. Il n'est chose plus amère que l'inutilité. L'as dans le ciel pend une étoile verdâtre que l'aube a surprise. Elle voit la mer sombre et la tache de feu est près d'elle pour faire quelque chose, l'homme qui se réchauffe. Elle voit, puis tombe de sommeil entre les monts obscurs où est un lit de neige. L'heure qui passe lente est sans pitié pour ceux qui n'attendent plus rien. Est-ce la peine que le soleil surgisse de la mer et que commence la longue journée? Demain reviendront l'aube tiède, la lumière diaphane, et ce sera comme hier, jamais rien n'arrivera. L'homme seul ne voudrait que dormir, quand la dernière étoile s'est éteinte dans le ciel. Lentement l'homme bourre sa pipe et l'allume. Cesare Pavese, travail et fatigue, la mort viendra et elle aura tes yeux, qui sont deux recueils qu'il a publiés dans les années 30 alors qu'il était tout jeune, qui existent, qui sont hélas pas disponibles en version bilingue, mais publiés dans une excellente traduction de Gilles Devant avec une préface de Dominique Fernandez en Poésie Gallimard.
Eh ben merci beaucoup Cesare Pavese. Et Christian Bobin, tu disais un peu tutélaire pour l'écriture de ton livre. On rappelle, c'est La Tournée aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu ici. Et merci, Julien. Il y aura évidemment beaucoup à dire, mais on en a dit un peu.
Ouais,
on a ouvert, quelques endroits, quelques espaces de musique, de poésie.
Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, Sophie? Je pense qu'on pourrait devenir un beau format d'émission, tout ça.
I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
This operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman. Craftsman. Craftsman.
salon impromptu.